à Rencontre Spirituelle aujourd'hui, une émission spéciale qui fait suite à celle que je vous ai faite au mois de décembre sur les sectes. Pourquoi tant de sectes ont-elles tant de succès? Nous avons abordé d'autres questions, d'autres problèmes. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, qui est moins inquiétant que certains pensent, mais qui demeure quand même un peu inquiétant. Il faut pas en faire des montagnes. La très grande majorité des gens se réclament toujours des grandes églises, en particulier du catholicisme. Et le drame, c'est que les gens, dans certaines sectes, souffrent beaucoup. Souffrent beaucoup d'avoir été comme happés. Mais on peut se demander pourquoi ils vont dans ces sectes. Je me demande toujours pourquoi les gens fuient une église qui nous fournit des gens merveilleux comme Sainte Thérèse d'Avila, qui était la plus grande mystique de l'histoire d'Occident, et qui était catholique évidemment, était carmélite. Je présenterai, je le signale tout de suite en début d'émission, une conférence au Centre Unitas dimanche prochain, le 25 janvier. Je présenterai deux cassettes vidéo avec Pierre Boudot, professeur à la Sorbonne, malheureusement décédé, et qui était intéressé autant à Nietzsche, ce grand philosophe qui a déclaré que Dieu était mort, qu'à Sainte Thérèse d'Avila, justement, dont l'expérience de Dieu est vraiment l'une des plus étonnantes de toute l'histoire occidentale, je le répète. Cet homme, Pierre Boudot, a écrit l'ontologie de Nietzsche et la jouissance de Dieu ou le roman courtois de Thérèse d'Avila qui a joui de Dieu. On a peur du mot jouissance. Hein? Mais la joie que donne Dieu est une joie à nulle autre pareille. Et une très belle sculpture du Bernin qui représente Thérèse d'Avila à Rome nous la montre comme renversé et recevant un dar d'amour au cœur qui lui est transmis par un ange. C'est extrêmement surréaliste et extrêmement mystique, mais c'est très beau. Et alors je présenterai ces deux vidéos qui ont été tournées à Paris auprès de Pierre Boudot, malheureusement décédé. C'est donc dimanche prochain au Centre Unitas, 1475 Ouest Avenue des Pins, à 2h30, 14h30, c'est près du chemin de la Côte des Neiges, entre Cedar et Côte des Neiges. Revenons au problème des sectes, qui n'ont pas de Pierre Boudot, qui n'ont pas de Thérèse d'Avila, je crois, malheureusement. Je vous avais parlé des caractéristiques générales des sectes, chez lesquels le Christ Jésus ressuscité n'est plus au centre de la foi. Et dans bien des sectes, on fait une lecture fondamentaliste de la Bible, quand elles sont évidemment rattachées à la Bible. Puis il y a aussi cette conviction, chez la plupart d'entre elles, que le monde est radicalement mauvais. Et alors donc, souvent, les gens, quand ils entrent dans beaucoup de sectes, n'ont plus de rapport avec ceux qui ne sont pas membres de la secte. On voit dans des familles, quelqu'un qui est entré chez les témoins de Jéhovah n'a plus de rapport avec sa famille. C'est des brisures qui font bien mal aux parents, aux frères, aux sœurs, et parfois même aux époux. C'est tragique. Puis, il y a des méthodes de propagande bien particulières, je vous avais parlé de tout ça. Mais pourquoi ont-elles tant de succès? C'est qu'elles répondent à des besoins, particulièrement de la jeune génération. Les sectes répondent à ce grand besoin d'absolu, vous avais-je dit. Un grand besoin d'absolu qu'elles ne semblent pas trouver parfois, même trop souvent, dans nos grandes églises, à moitié vides, où l'absolu est comme... Je dirais pas trahi, le mot serait trop fort, mais où l'absolu ne semble plus tellement présent. Il y a un manque de décision, de désir. Ils ont aussi besoin de vie intérieure, et ils ont besoin de cette vie intérieure qui les fait rentrer dans toutes sortes de sectes, particulièrement actuellement, du côté du bouddhisme, hein, où ils ont l'impression de trouver vraiment une vie intérieure, mais sans Dieu. Il y a aussi le besoin qui est très très important, dont je vous avais parlé, hein, qui est ce besoin de communauté à taille humaine. Dans nos communautés, moi je suis rattaché profondément à l'Église catholique, et je souffrais beaucoup de ce que nous allions à la messe, j'y vais tous les jours, il n'y a pour ainsi dire aucun échange. On ne se parle pas. On ne nous parle pas. Si on ne me parle pas, moi qui fais une émission quotidienne à Radio Ville-Marie, c'est qu'on ne connaît pas non plus Radio Ville-Marie. Je regrette de dire que je n'en ai à peu près jamais entendu parler en chair, et c'est là qu'il faudrait en parler pour dire aux gens, connaissez-vous Radio Ville-Marie, vous avez à la maison un appareil radio ou deux ou trois, vous pouvez s'intoniser à longueur de journée, même la nuit, quand vous vous réveillez, des émissions de toutes sortes, des messes, chapelets, oh, hier soir, le chapelet était de toute beauté, récité par un enfant de 3 ans et demi avec son père et sa mère. J'en avais les larmes aux yeux tellement c'était beau. Et par la suite, parce qu'il y a eu des difficultés électriques à Radio Ville-Marie, nous avons eu droit à de la belle musique, mais aussi à un témoignage admirable des Rameurs sans frontières à 8 heures, puis à 9 heures de la belle musique, et ainsi de suite. Mais si les gens ne sont pas au courant, ils ne peuvent pas écouter ça. Il y a un besoin donc de communauté à taille humaine, où les prêtres parleraient comme ça de temps en temps, de 91,3 FM. Rassembler la communauté, non seulement à l'église, ou pour la prière, la louange, et la réception de la très sainte Eucharistie, et une action de grâce, si possible, mon Dieu, il devrait y avoir. Et s'ils étaient invités, s'ils allaient chez eux, pour communier ensemble à un même poste de radio qu'ils apprécieraient et qu'ils aimeraient. Car la majorité des gens ne savent pas encore que le poste de Radio Ville-Marie existe. Et les jeunes aussi se dirigent vers des sectes parce qu'ils ont un besoin d'identité. Il ne faut pas oublier ce point très important. Car vous savez, ce besoin d'identité est très fort chez une grande partie des jeunes. La société contemporaine, elle a tendance à former des individus, je dirais, standardisés. Des individus qui n'ont aucune originalité. Tout le monde porte du Tommy Hilfiger, même si ça coûte très cher. Et mon petit-fils de 13 ans est pris là-dedans lui aussi. Un manque d'originalité véritable. Ils sont plongés dedans, ce manque d'originalité, qui absorbe les gens dans les mêmes informations, dont souvent ils ne saisissent pas le sens, parce que Monsieur de Rome, Bernard de Rome, n'a pas le temps de tout expliquer. Alors il nous parle d'Israël, il nous parle de Cuba, il nous parle de l'Irlande, on a l'impression que ce sont des catholiques ou des protestants, mais alors que ce sont des gens qui veulent être fidèles à la reine d'Angleterre et à pour ainsi dire l'Empire britannique, et d'autres qui veulent être fidèles à l'idéal républicain de l'Irlande catholique à laquelle ils veulent appartenir. Ils s'adonnent à être en général catholiques. Mais c'est pas expliqué, on ne sait pas. Les gens ne savent presque rien de tout ça. Alors ils consomment les mêmes loisirs aussi. Alors c'est le hockey, c'est les mêmes loisirs. Et tout ça est fait finalement bien platement. Une grande partie de nos jeunes finalement tombe dans une espèce de d'atmosphère de zombie. Il faut aller au spectrum, il faut aller ici, il faut aller là, il faut être au courant de ci, au courant de ça, au courant des derniers disques, les 10 principaux disques, et toutes ces choses-là, l'Église leur semble bien loin. Et si on pense à l'Église elle-même, ce qui est curieux, c'est qu'elle semble parfois encourager ses fidèles à se perdre dans la masse. C'est curieux. Les chrétiens ont pris l'habitude, oh, c'est heureux de retrouver des incroyants, hein, pour des actions communes. Pensons à Amnesty International. Pensons à certains combats politiques véritables. Il faut vraiment s'engager politiquement quand on en a le goût, les aptitudes, les connaissances. C'est normal. C'est normal. Le pape est engagé politiquement en Pologne, à tout le moins, il s'est engagé. Il ne s'est pas resté assis. Il s'est engagé contre le communisme aussi, athée, qui régnait dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. D'autres s'engagent dans des syndicats, et des catholiques sincères qui s'engagent dans des syndicats peuvent donc œuvrer de façon saine. Mais au sein même des institutions chrétiennes, les croyants convaincus ne représentent souvent qu'une petite poignée de personnes qui prennent même pas le temps de se réunir. Et ils ont même pas l'impression d'avoir quelque chose de spécifique à faire ou à dire. Hein? Les croyants convaincus sont là, puis finalement disparaissent rapidement parce que ils sont comme pris dans un monde de conventions catholiques. Et même les prêtres et les religieuses qui ne portent plus, comme on le sait, de signes distinctifs de leur identité, particulièrement à Montréal et dans les environs, puis je pense bien dans tout l'ensemble du Québec et dans une grande partie de l'Occident, ben, sont là, eux aussi, mais disparaissent rapidement. Et je connais beaucoup de jeunes de 20 ans qui me disent, je n'ai jamais vu un prêtre de ma vie. Parce qu'ils ne vont plus à l'église depuis l'âge de 10 ans. Ils n'ont jamais parlé à un prêtre. Ils n'ont jamais vu une sœur de leur vie. Ils ne connaissent rien de tout ça, ils ne savent même plus ce qui se passe à l'Église. Ils sont déchristianisés. Les signes sont disparus et par conséquent, le plaisir que nous avions jeunes de parler à des gens qui étaient donnés, consacrés, présents, signifiants, ils ne l'ont plus. Alors quoi d'étonnant si les jeunes sont attirés par des groupes bien structurés, dont les membres réclament clairement, ostensiblement, leur droit à la différence. Alors ils vont chez les Krishna. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui y entrent, beaucoup qui en sortent. Mais tout ça, ça peut les orienter vers un supplément d'âme, c'est possible. Il ne faut pas mépriser la démarche, la recherche. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils se sentent obligés d'aller chercher ailleurs. Alors ils vont dans des sectes aussi, comme je suis allé une fois, dans une secte où tout le monde était habillé de blanc. Ils étaient immenses, ils m'avaient invité dans l'espoir que je puisse interviewer leur grand maître à la télévision de Radio-Canada. J'ai assisté, c'était très beau, il y avait des chants bulgares, et c'était très très intéressant. Mais c'était plein de jeunes Québécois de 25 ans. Incroyable. Ça nous pose bien des questions, bien des problèmes. Je reviens donc au problème des sectes. L'existence des sectes, me semble, nous rappelle, à nous des grandes églises, particulièrement nous les catholiques, ça nous rappelle de façon très claire, il me semble, et on devrait le comprendre, que les chrétiens doivent prendre le temps de se réunir puis de célébrer leur foi commune, là, la messe et d'autres célébrations. Nous devrions même avoir des vêpres intelligentes. On a toute une tradition de ça. On n'en fait rien. Ou des assemblées de prières qui seraient attirantes, où on célébrerait notre foi dans une atmosphère vraiment festive mais intelligente. Évitons d'être, je le regrette de le dire, d'être quétaine, mais soyons joyeux, vrais, enthousiastes. Je n'ose même plus à la messe personnellement prier à haute voix. Tout le monde murmure. Alors il ne faut pas parler beaucoup plus fort, que d'être entendu peut-être à la distance de 2 ou 3 pieds, c'est... Là, ça devient gênant, les gens risquent de se retourner, et j'ai reçu d'ailleurs des lettres me disant que ça devenait ostentatoire que de chanter à voix normale. On ne sait plus quoi faire, hein? Alors nos assemblées sont mornes, les chants ne chantent pas. Allons chez les protestants, ils chantent. Chez les anglicans, on chante les vêpres le dimanche à Radio Ville-Marie. Avez-vous écouté ça? 4 heures, c'est beau l'après-midi. Ça vient de la cathédrale anglicane. C'est magnifique. Ce sont des vêpres, c'est Evensong. C'est magnifique. Je me souviens d'avoir découvert ça à Londres en 1949. Et j'y allais tous les dimanches soirs à l'abbaye de Westminster. Une abbaye bénédictine qui appartient évidemment à l'Église anglicane. C'est très beau. Dans la crise que nous traversons aujourd'hui, c'est une crise. Les chrétiens ont plus que jamais besoin, me semble, de se serrer les coudes. Non pas pour se recroqueviller sur nous-mêmes, en petits groupes qui murmurent à peine, mais pour être une Église croyante, là, heureuse, puis active. Nous avons l'Église la plus fantastique de toute l'histoire de l'humanité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Elle vient de son cœur. Elle est sous l'emprise de l'Esprit-Saint. Essayez donc alors de chanter quand l'animateur bat la mesure en avant. Si vous chantez, il y en a souvent qui se retournent pour voir qui est cet énergumène qui ose croire et chanter? Étranges églises. Je sais qu'il y a des paroisses où on peut le faire. J'y suis déjà allé, c'est merveilleux. Il y a des paroisses où on a su probablement répandre dans l'assistance des membres d'une chorale, peut-être, ou des gens qui chantent bien et qui sont intelligents, qui ont de l'allure. Ça peut être des gens simples, pas nécessaire que ce soit des universitaires, loin de là, mais qui savent et qui sont répandus dans l'Église et qui soutiennent la foule, et ça fait chanter tout le monde. Trêve de ça pour ce besoin d'identité que les jeunes recherchent. L'autre besoin, et c'est bien plus grave encore, c'est le besoin de certitude. Les jeunes ont besoin de certitude, ils veulent croire à quelque chose, mais ils ne savent plus à quoi on croit dans l'Église. Ils ne connaissent plus rien. Je vous rappelle, mon petit-fils, il y a des gens qui n'aiment pas que j'en parle, mais enfin, il a 13 ans. Il a reçu la confirmation, il a été confirmé au mois de novembre, quelques jours après son anniversaire. Et puis je le reçois le lendemain de Noël, le 26 décembre, et je me rends compte qu'il ne sait même pas que Jésus est Dieu, mais il ne connaît pas la Trinité. Il n'a pas de certitude. Il est dans l'incertitude. La société contemporaine est faite d'un monde de plus en plus sceptique. Nous sommes de plus en plus... Enfin, pas moi. J'espère vous non plus. La société contemporaine est de plus en plus relativiste. Ah! Les valeurs morales les plus fondamentales sont contestées. Les évidences les plus évidentes, pour être redondant, ça se perd. On reste bouche bée quand on leur dit que d'avorter, c'est de tuer un enfant. Et ils veulent pas le croire. Ils n'ont jamais vu les photos. Pourtant, il y a des films à la télévision où on nous montre des films admirables de la société Time Life ou de Nova. Mais c'est en anglais, ça ne passe pas beaucoup en français, je crois. C'est possible. C'est admirable où on nous montre toute la progression de l'enfant dans le sein de la mère, puis il y a des dépliants là-dessus, tout ça, puis on voit que c'est très vite fait. Le cœur de l'enfant bat au bout de 19 jours après la conception, la mère ne le sait même pas. Et il bat de lui-même, sans le compter tout le reste. Je n'ai pas le temps de vous en parler, je vous en parlerai un autre jour. De toute façon, les valeurs morales, les plus évidentes, les plus fondamentales, sont contestées, tout est contesté. On peut tout dire aujourd'hui, sauf dire surtout la vérité. car on doit contester. C'est comme devenu une nécessité. Et les jeunes grandissent dans un climat comme celui-là, puis à un moment donné, ils se disent, à 18 ans, mais il faut que j'aie des certitudes si je veux survivre. Alors l'Église, l'Église catholique elle-même, donne parfois l'impression de remettre en question un certain nombre de vérités, des vérités qui étaient encore, il y a bien peu de temps, admises sans problème. Il y a des articles, des livres qui passent pour être très catholiques et qui se sont lancés sur le marché, vantés dans les journaux, dans nos revues, partout comme étant des livres qu'il faut lire. Ils contestent les vérités essentielles. Alors on conteste la réalité de, pour ainsi dire, tous les miracles de l'Évangile. Jésus n'a jamais fait de miracles, disent-ils. On en arrive à nous dire aussi que la résurrection du Christ, bah, c'est une histoire inventée qui veut dire ceci, qui veut dire cela, que si on s'unit à lui, si on vit de lui, bien nous ressusciterons intérieurement, mystiquement, et c'est vrai d'ailleurs, ils ont raison, mais que la réalité concrète de la résurrection du corps du Christ est une absurdité. On en arrive à dire ça. On en arrive à dire que dans le tabernacle, eh bien, dans le ciboire, il n'y a rien. Le Christ n'a jamais voulu que sa présence dite réelle soit si réelle qu'elle perdure après l'Eucharistie. Les hosties qui restent après l'Eucharistie, on peut les jeter, ou avec un certain respect peut-être, en les mettant dans un sac spécial. C'est abominable. C'est abominable. On ne pense pas ça à Rencontre spirituelle, en tous les cas, puis on ne pense pas ça, j'espère, nulle part à Radio Ville-Marie. Bref, l'Église, qui était jadis intransigeante en matière de foi, elle semble, aux yeux de bien des jeunes, être passée aujourd'hui de ce qu'on appelait l'anathème, qui était trop répandu à mon avis, au dialogue. Alors le dialogue avec n'importe quelle souplesse, et puis on accepte tout. L'Église en est rendue, croit-on, à tout laisser dire, et à peu près n'importe quoi. Alors les jeunes, devant une telle incertitude, ne savent plus où se diriger, ils ne savent plus quoi croire. Le Christ est-il vraiment Dieu, ou ne l'est-il pas? Pourtant c'est dans l'Évangile. Je vous ai déjà fait des émissions là-dessus. Il y en a même certains qui prétendent que le doute est essentiel à l'acte de foi. Il n'est pas essentiel, il accompagne l'acte de foi. Mais il n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est l'adhésion totale. Il y en a qui s'imaginent qu'en se présentant moins sûre d'elle-même, là, comme dans une espèce d'hésitation, eh bien, l'Église attirerait davantage le monde des jeunes. Il faut pas que l'Église soit comme affirmative. Elle peut être affirmative avec beaucoup de douceur, hein, me semble. Alors, on croit qu'elle rejoindrait les jeunes dans leurs interrogations puis leurs incertitudes. Et ainsi, l'Église se débarrasserait une bonne fois pour toutes, de tout triomphalisme, il faudrait qu'elle soit si humble qu'elle n'affirme presque plus rien. Or, c'est le contraire qui est vrai. Les chrétiens qui n'osent plus proclamer leur foi avec assurance, à mon sens, font le jeu des sectes. Alors, le saviez-vous, les jeunes sont toujours impressionnés, en effet, par des femmes et des hommes qui sont sûrs de leur foi et qui n'ont pas peur de la proclamer avec tendresse et respect. Puis avec beaucoup d'amour, s'ils sont capables. Regardez quand le pape affirme ces choses. Les jeunes, par millions, l'acclament. Et ils savent ce qu'ils acclament pour la plupart. On a fait remarquer qu'après avoir tué les pères et chassé les mandarins, les jeunes de cette génération sont en quête de maître à penser, tant il est vrai que les hommes ne peuvent pas se passer longtemps de modèles à imiter. Non, les jeunes ont peut-être tué leur père dans leur esprit, mais ils cherchent d'autres pères et ils tombent dans les bras des gourous. Réveillons-nous, n'est-ce pas? L'existence des sectes, me semble que ça nous rappelle, moi du moins en tout cas, ça me fait ça, qu'il y a une fureur de contestation. Oh, j'étais souvent un contestataire dans l'Église. Moi, j'ai l'esprit critique trop développé. Il a toujours fallu que je me calme sur ce côté-là. Mais il y a une fureur de contestation chez beaucoup de gens et qui s'empare parfois d'un certain nombre de chrétiens qui, ça n'attire pas forcément vers l'Église les incroyants puis les malcroyants. Aujourd'hui comme hier, les hommes ont besoin de certitude. Puis à l'intérieur de l'Église, il y a beaucoup de contestations. Alors, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de certitude, puis ils s'en vont. Les hommes qui ne sont pas assurés dans leur foi ne sont pas contagieux. Regardez les gens qui sont sûrs dans leur foi, avec qualité, avec profondeur, avec intelligence et passion, avec enthousiasme, les saints, quoi. C'est eux qui ont transformé au cours des siècles l'Église, qui sont toujours venus au secours et à la rescousse, qui ont fait que l'Église s'est restructurée dans le bon sens du terme sous la conduite de l'Esprit-Saint, qui est un esprit d'amour et de paix, comme nous a dit Jean-Paul II, en annonçant que cette année était l'année de l'Esprit-Saint. Un esprit d'amour et de paix, un esprit de joie. Il faut qu'on soit sous l'emprise de cet esprit si on veut être contagieux. Ici, il ne s'agit pas au fond d'être sûr de soi. Il faut être sûr du Christ. Le monde passe. Mais les paroles de Jésus-Christ ne passeront pas. Il l'a dit dans Matthieu 24 au verset 35. Donc il ne s'agit pas d'être sûr de soi, je le répète, mais d'être sûr du Christ. Mettons notre foi dans les paroles du Christ, dans le cœur du Christ, dans l'Eucharistie reçue, si possible, quotidiennement. Adhérons, aimons-le, car le monde passe. Le monde passe. Mais les paroles de Jésus ne passent pas. Elles sont bouleversantes, les paroles de Jésus. Lisez bien l'Évangile tous les soirs avant de vous coucher. Imprégnez-vous de ces paroles. Dormez avec ces paroles. Elles grandiront en vous dans votre sommeil. Vous deviendrez de plus en plus chrétien, c'est évident. Puis une troisième raison, je vous ai parlé du besoin d'identité, le besoin de certitude. La troisième raison qui fait que les jeunes, ou des moins jeunes, se dirigent vers des sectes, c'est le besoin de participation puis d'engagement. Une société contemporaine ne donne à peu près pas aux jeunes l'occasion de prendre rapidement des responsabilités. Ils sont comme abandonnés. On sait qu'ils s'engagent plus tard, que leurs aînés, évidemment, dans le mariage, ou bien dans une activité professionnelle. Ils circulent, ils cherchent, ils abandonnent souvent leurs études, ils reviennent, ils rentrent dans une faculté, vont dans une autre, ils savent plus où ils vont. Parce que nous sommes dans un monde où presque tous les postes sont occupés tant par les hommes que par les femmes, où trouver un emploi. L'Église elle-même semble, aux yeux de certains, avoir perdu son élan missionnaire. Il ne s'agit plus d'être missionnaire, il s'agit de contempler ce que font les autres et d'être une présence silencieuse, dit-on. C'est un désir de respecter, croit-on, la liberté religieuse des gens qui nous entourent. Alors l'Église donne parfois l'impression de ne plus être tellement préoccupée de la conversion des gens, de leur apprendre à aimer Jésus-Christ puis d'y adhérer et de recevoir le baptême ou non. C'est pas ça la mission aujourd'hui. Alors on a bien assimilé l'enseignement de Vatican II relatif à l'action de l'Esprit-Saint dans le cœur de tous les hommes de bonne volonté. Puis malgré tout ça, beaucoup de chrétiens paraissent aujourd'hui se résigner. Est-ce que l'Évangile ne soit connu que d'une toute petite portion de croyants, ça suffit. Allons, l'Esprit-Saint un jour fera tout et nous, nous n'avons rien à faire. Mais non, Monsieur Beaugrand-Champagne, priez, ne vous lamentez pas, ne soyez pas inquiets. Confiez-vous à l'Esprit-Saint. Moi, je trouve ça absolument aberrant et j'en tremble. Il faut crier, il faut parler, il faut dire. Il faut propager, il faut répandre, mais avec beaucoup de respect. Mais il faut savoir, petit à petit, gagner l'amitié des autres et changer leur cœur. Il faut les amener au bonheur. On ne peut pas les laisser dans le désespoir et l'inquiétude et les tourments. Quand quelqu'un est en train de se noyer, on fait tout, on plonge. Et ces gens qui plongent et qui risquent leur vie pour aller sauver quelqu'un sont décorés ensuite à Ottawa par le gouverneur général. Et quand il s'agit de sauver une âme, c'est le Christ qui nous décore à l'intérieur. Oui. Il y a une telle joie d'apprendre que j'ai appris dernièrement qu'une de mes émissions avait ramené à Dieu quelqu'un. J'ai pleuré de joie. Il y a une telle joie, que je n'ai sauvé qu'une seule personne par ces émissions en travaillant, travaillant, travaillant. Je me réjouis, je sais que c'est l'Esprit Saint qui est allé le chercher. Et ça me réjouit d'être un petit instrument, un robinet, quoi. Nous sommes tellement silencieux. Quel contraste avec le prosélytisme dont font preuve les témoins de Jéhovah, qui sont des passionnés de Jéhovah. Ou tous ces pionniers du Nouvel Âge, qui craignent pas de faire du porte-à-porte pour recruter de nouveaux adeptes. Ou d'en parler, ou de faire des émissions de télévision, ils y vont. Ils ont trouvé, disent-ils, le bonheur, ils veulent le partager. C'est une jeune ex-mooniste, vous savez, M. Moon. Elle faisait partie de ça. Et elle disait, l'Église, il faut aller à elle, tandis que les sectes vont aux gens. Les sectes viennent vers nous. Et ça fait une énorme différence, dit-elle. On vient nous chercher, on s'intéresse à nous. Et nous, est-ce qu'on s'intéresse vraiment aux jeunes? J'espère que oui, depuis qu'on a surtout... ce centre sur le boulevard, l'avenue du Mont-Royal, sous l'église des Pères du Très-Saint-Sacrement. Mais qui leur parle pour être compris? Qui parle aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre quelque chose? Qui parle aux jeunes pour que les jeunes soient enthousiastes? Quand je reçois des lettres des jeunes, je suis bouleversé. Des jeunes de 12 ans, 13 ans, 15 ans qui comprennent certaines de mes émissions et qui sont enthousiastes et passionnés par l'église. Que ça fait plaisir. Alors on comprend que les jeunes soient parfois séduits par ce prosélytisme des sectes et qu'ils adhèrent alors avec enthousiasme. Moi, je le comprends et c'est pas moi qui vais les blâmer. Ils adhèrent avec enthousiasme à une secte parce que ça satisfait leur désir d'engagement et de participation. Et j'espère simplement que ce soit ça, ce soit là comme une espèce de tremplin qui leur permettra tout à coup de plonger dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici encore, l'existence des sectes, me semble, ça rappelle à nos communautés chrétiennes, surtout à nos communautés catholiques, qu'elles doivent écouter davantage. Elles doivent écouter davantage quoi? Le commandement très clair de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, quand il dit « Allez, enseignez toutes les nations, allez, allez !» Il dit pas rester assis, faites attention. Non, allez enseigner toutes les nations. Quand on voit la vie de Saint François Xavier, qui nous a été lue le soir à 11h, oh mon Dieu, que c'est passionnant, je vous ai fait aussi une émission le 3 décembre dernier sur ce saint admirable, un missionnaire des missionnaires, quoi. Pas un démissionnaire, non, non. Le missionnaire des missionnaires. Bien entendu, l'esprit missionnaire ne doit jamais dégénérer chez nous en prosélytisme. J'aime pas le mot. Parce que nous devons être capables profondément de respecter les consciences. Nous devons toujours nous souvenir que la foi, c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça. C'est pas le simple résultat d'un enseignement. Encore moins d'un endoctrinement. Il ne s'agit pas d'endoctriner des gens. La foi, elle est surtout le fruit de l'action de l'Esprit Saint dans les cœurs. C'est quand l'Esprit vibre au même diapason que l'Esprit Saint. Il y a comme une harmonie qui se fait dans le cœur. Et là, il y a une passion qui surgit, un désir d'aimer le Christ. Un désir de le recevoir à l'Eucharistie, un désir de lire sa parole, un désir d'aimer les pauvres, un désir de participer aux œuvres de justice ou des œuvres politiques qui mènent la justice. Oui, il s'agit de s'engager. L'apôtre sème et arrose, mais c'est Dieu qui fait pousser la moisson, comme disait quelqu'un. Oui, l'apôtre, nous sommes des apôtres, nous devons l'être. Nous avons tous une mission. Quelqu'un me disait l'autre jour, ah oui, mais elle avait une mission. Mais nous l'avons, nous, la mission. Soit d'être contemplatif et de prier avec ardeur au fond d'un cloître inconnu. Mais nous avons aussi la mission de prier chez nous et de prier inconnu près d'un pilier dans une église tous les jours. Mais nous avons aussi et surtout, parce que nous sommes dans le monde, la mission de travailler à faire pousser cette moisson. Il faut semer avec feu. Il faut arroser avec passion. Je vous rappelle ce document du Vatican sur les sectes qui date d'il y a une dizaine d'années, qui concluait en ces termes, nous ne pouvons pas être naïvement iréniques, c'est-à-dire rêveurs, disons, pour être plus clair. Nous avons suffisamment analysé, dit le document du Vatican, nous avons suffisamment analysé l'action des sectes pour voir que les attitudes et les méthodes de certaines d'entre elles peuvent détruire la personnalité, désorganiser les familles, comme je vous ai dit au début de l'émission, désorganiser la société, et que leurs doctrines, dans bien des cas, sont très éloignées de l'enseignement du Christ et de son Église. Néanmoins, dit le document, si nous voulons être fidèles à ce que nous croyons et à nos principes, quelles sont les choses auxquelles on croit? Quels sont nos principes? Mais le document du Vatican le rappelle, c'est le respect de la personne humaine, le respect de la liberté religieuse, la foi dans l'action de l'Esprit-Saint qui œuvre selon des principes insondables pour l'accomplissement du grand projet, du grand dessein d'amour de Dieu notre Père sur toute l'humanité, sur chaque individu, homme, femme ou enfant. Nous ne pouvons pas être simplement satisfaits en condamnant puis en combattant les sectes. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ou en les voyant mises hors la loi ou expulsées comme on le fait dans certains pays comme en France ou en Allemagne. Et où quand on voit les individus déprogrammés contre leur gré, c'est pas ça. Non, le défi des sectes ou des nouveaux mouvements, rappelle le Vatican, des nouveaux mouvements religieux, doit stimuler quoi? Notre propre renouveau à nous autres ici, dans notre cœur, en faveur d'une plus grande efficacité pastorale. Il faut que nos églises deviennent vibrantes, que nos prêtres en chair ne se gênent pas pour dire « J'ai écouté Radio Ville-Marie. Connaissez-vous ça? Avez-vous idée que ça existe? » FM 91,3. Il y a là des gens merveilleux, des prêtres, il y a plus de 30 prêtres qui font toutes sortes de choses et qui parlent. Il y a des laïcs en quantité, plus de 100 laïcs qui participent. Oh, vous pouvez les mettre en garde que c'est pas toujours parfait. Nous ne sommes pas parfaits à Radio Ville-Marie. Mais grand Dieu, nous faisons notre pouvoir, ce que nous pouvons faire avec autant de bonne volonté que possible. Et nous avons fait, mon Dieu, l'émission qui a précédé la mienne et qui va passer tout à l'heure, ce soir à 11h30 sur Luther, était admirable sur Luther. Très belle émission. Mais qu'est-ce que ça veut dire en langage concret de tous les jours, ce que je vous dis? Ça veut dire une plus grande efficacité pastorale. Le sait-on? En a-t-on une petite idée? Oh Seigneur, Seigneur, aidez-nous à mettre le feu sur la terre. Et c'est ça l'efficacité pastorale. Du feu, oui. Et du feu dans la bouche des prêtres en chair pour nous rappeler qu'il y a un poste religieux à Montréal. La majorité des catholiques qui vont à la messe tous les jours ne le savent même pas encore. Le saviez-vous? C'est inconcevable. Oh, faut que je me taise. Je risque de déplaire à bien du monde. Je lisais dans la presse du 8 novembre dernier une réponse à cette question. Pourquoi les sciences ésotériques, les sectes, connaissent-elles un tel succès? Alors on oppose souvent l'environnement technologique et sans âme dans lequel nous vivons à nos besoins de spiritualité. Alors on dit que les chercheurs, les ingénieurs ne sont pas en mesure de nous expliquer le sens de notre existence. C'est évident, ils ne peuvent rien expliquer. C'est pas eux qui peuvent expliquer, les ingénieurs, les chercheurs, le sens de notre existence. C'est pas au bout d'une éprouvette je sais pas quoi, d'un télescope. Alors, on se refuge dans l'ésotérisme. Pourquoi? Parce que l'ésotérisme nous propose une conception de l'homme et du monde intégral, croit-on. Mais ces croyants-là ne donnent pas l'impression d'être des fanatiques au comportement irrationnel en général, non. J'en ai connu. Ils ont l'air d'être très logiques souvent. Vous en avez vu lors du temple solaire. Le directeur de l'Orchestre symphonique de Genève en était membre. Ici, il y avait des hommes politiques remarquables qui étaient dedans. C'est incroyable. Alors, ils font preuve de sens logique, de soif de savoir. Et depuis le début, on peut dire des années 70, un peu partout, il y a un phénomène de critique de la science, hein, puis de la technique. On trouve régulièrement trace de ça dans les médias, parce que la science nous amène à faire des clonages d'êtres humains. Dans le dernier numéro de Time Magazine, l'éditorial, à la fin, nous parle de ça, puis il y a un autre article à l'intérieur qui nous parle de ce bonhomme aux États-Unis qui veut faire du clonage humain. Très intéressant. L'éditorial est archi-contre dans Time Magazine, hein? Magazine Time. Mais les mystères de la nature, dit l'article dans la presse du 8 novembre, les mystères de la nature et de l'univers fascinent toujours autant les gens, malgré qu'ils savent que c'est pas là qu'on va trouver la réponse. Alors même la science, donc traditionnelle, est discréditée. Bon, on se fabrique alors une propre science, alors avec les fleurs sauvages, les phases lunaires, de l'astrologie, ou bien des extraterrestres, etc., etc. La plupart des sectes se présentent comme des gnoses, au fond. C'est-à-dire qu'elles répondent au désir profondément incrusté dans l'homme, là, d'entrer directement en contact avec le divin. Le divin. Au-delà de toutes les représentations données par les églises officielles, surtout comme l'église catholique. Non, on n'en veut pas. Pas de l'Église catholique. Alors, affrontée à l'extrême diversité du phénomène religieux dans le monde, l'homme a spontanément tendance à penser que toutes les religions se valent, puis que le véritable mystique, est celui qui ose. Ose quoi? Qui ose chercher la vérité sur Dieu et sur le monde en découvrant le sens caché des formules véhiculées par ces différentes religions. Alors cette interprétation qu'ils croient toute nouvelle, seuls peuvent la comprendre de petits groupes d'initiés qui sont décidés à y consacrer de longues heures de méditation. Puis ça, c'est une connaissance dite ésotérique. Alors le salut n'est plus obtenu par une conversion de tout l'être aux exigences d'amour d'un Dieu personnel, comme l'Église catholique l'enseigne, qui se révèle aux pauvres et aux petits. Non. C'est par la découverte, disent-ils, de symboles jusque-là ignorés. Par la prise de conscience que fait l'individu de son immersion dans le divin. Éveil de conscience, aussi, qui est censé lui procurer des pouvoirs. Oui, des pouvoirs extraordinaires sur son propre psychisme, sur son propre corps, puis sur le monde entier. Alors, à la différence du fidèle catholique là, qui adhère à des vérités révélées par un envoyé de Dieu, qui est Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, Dieu lui-même, eh bien, le gnostique ne croit qu'à ce qu'il a entrevu par lui-même dans son expérience personnelle. Il sait parce qu'il est initié. Mais voyons. Voyons. Comment ose-t-on quitter Jésus-Christ pour aller vers à peu près n'importe quoi? Comment est-on cherché en dehors de cette église qu'il a fondée? Car cette église que j'aime, c'est d'elle, c'est par elle, que pour ma part, j'ai tout reçu, oui, tout. Ça nous arrive, évidemment, de nous cabrer devant ça. Ça nous arrive de regarder un peu de l'autre côté de la clôture, et pourquoi pas. On y trouve des richesses. On trouve des richesses dans le luthéranisme. On trouve des richesses dans le bouddhisme, même dans l'islam. Il y a plus forte raison dans le judaïsme. Mais comment découvrir qu'on est aimé si ce n'est en recevant le don de Jésus? L'Église est par excellence le lieu du don de Dieu. Où est l'Église? Là est la prise de conscience que nous sommes aimés. Cette Église que j'aime, parce que depuis que je suis entré à plein dans cette Église, depuis que j'ai pénétré, j'espère, au cœur de l'Église, jamais je ne me suis senti aussi libre. Et la liberté, ce n'est pas le caprice ou la fantaisie. C'est la possibilité de s'achever dans ce qui est notre but, notre fin. Et qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. Dieu. L'Église est par excellence le Dieu de la désaliénation de l'homme. Oui, c'est là qu'on se libère. Où est l'Esprit de Dieu? Là est la liberté. Oui, où est l'Esprit de Dieu? Là est la liberté. Et cette Église que j'aime, parce qu'en elle, j'ai reconnu le lieu qui achève tout l'homme, toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les religions et toutes les confessions. Voilà, voilà le sens dernier du mot « catholique », qui ne veut pas dire seulement universel au sens géographique. Oh, on nous dit « elle est pleine de défauts, l'Église, ben oui. » Oh, j'aimerais mieux qu'elle ait un visage sans tache ni ride. Qu'elle soit plus transparente du Christ, souvent, oh oui, je le souhaite. Comme je voudrais que quand je parle des monseigneurs, les monseigneurs me répondent pas, comme ils me le font parfois. Mais que voulez-vous? J'ai appris à aimer l'Église jusque dans ses verrues, telle qu'elle est. Mais surtout, j'ai appris qu'elle n'est pas une société de parfaits. Nous sommes des pécheurs, et nous avons tous besoin de pardon. Si vous voulez que l'Église soit plus sainte dans ses membres, alors commençons par nous-mêmes. Pour obtenir cette grâce, il faut célébrer l'Eucharistie ensemble. Oui, il faut aller souvent à l'Eucharistie, si possible tous les jours. Il faut toujours recevoir. Nous sommes appelés à la sainteté dans cette Église. Peut-être pourriez-vous lire, si vous aimez les biographies, comment nous sommes arrivés chez nous. C'est une publication de Jésus-Marie Notre-Temps, je vous rappelle ce journal qui coûte presque rien, publie chaque mois l'horaire des émissions Rencontres spirituelles. Eh bien, ce livre, comment nous sommes arrivés chez nous, ne coûte que 10 $, je crois. C'est par Scott et Kimberly Hahn. C'est intitulé Rome Sweet Home, Rome doux domicile, douce maison, hein. Alors, c'est comment ils sont arrivés au catholicisme. C'est très beau. Ou bien, vous pouvez lire de Named Mahmoud Metwali. Bon, oubliez le nom. Pensez au titre. « Ma rencontre avec le Christ ». C'est publié chez François-Xavier de Guibert. C'est une musulmane qui s'est convertie au christianisme. Ce sont des livres récents. Vous pouvez lire ça et ça va vous enchanter.